BFM Business, l'info éco.
8h32 sur BFM Business, CMC Life. L'actualité avec Léo Dumas.
Les États-Unis ont repris leur frappe contre l'Iran cette nuit. Les gardiens de la révolution aussi ont répliqué une nouvelle escalade nocturne, donc, qui semble interrompue ce matin. Et Antoine Forestier, on vous retrouve à Washington, où Donald Trump, en fait, avait annoncé ses bombardements dès la fin de journée hier soir.
Les Américains ont visé des infrastructures principalement dans le sud de l'Iran selon le commandement central de l'armée américaine. Il s'agit de capacités de surveillance militaire, de systèmes de communication ou encore de systèmes de défense aérien. Sur Fox News, Donald Trump a donné ce chiffre. 49 missiles Tomahawk ont été lancés ces dernières heures en plus des bombardements via des avions de chasse. Pour justifier cette nouvelle opération militaire, le secrétaire à la défense Pete Hegseth a expliqué que le but est de mettre la pression sur Téhéran pour qu'un accord de paix soit enfin signé. Si nous devons négocier avec des bombes, nous négocierons avec des bombes, a-t-il dit. Et puis en représailles, les Iraniens ont indiqué qu'ils avaient visé un navire de guerre américain dans le détroit d'Ormuz. Information démentie par l'armée américaine.
Et après cette escalade, il n'y a pas d'effet ce matin sur les cours du pétrole. Le baril de Brent tourne autour de $93,90 pour le WTI. Dans ce contexte, Emmanuel Macron annonce, lui, qu'il invite les dirigeants des principaux pays du Golfe à une session du sommet du G7 d'Évian mardi prochain. Il s'agira notamment d'évoquer la fermeture du détroit d'Ormuz et les négociations avec les Iraniens. Le président, qui convie aussi Volodymyr Zelensky, pour la recréer, explique-t-il, de la convergence au G7 dans le soutien à l'Ukraine. Sur le front des droits de douane, les premiers remboursements sont tombés. Le département américain du Trésor a indiqué hier avoir rendu au mois de mai 22 milliards de dollars de surtaxes illégalement prélevées sur un total estimé à presque 170 milliards.
Dans l'actualité des entreprises, pour la première fois depuis l'annonce de son plan de départ volontaire, le président de Michelin prend la parole.
Et c'est au micro de BFM Business que Florent Ménégo explique qu'il s'agit là de la vie normale des entreprises et des salariés et qu'il faut en permanence s'adapter. Écoutez-le.
Les technologies évoluent, les métiers changent et à certains moments, on a aussi des personnes qui finalement aspirent à faire d'autres choses dans leur vie professionnelle. Et donc, la conjonction de tout ça fait que on souhaite proposer aux personnes qui souhaiteraient développer un autre futur professionnel de pouvoir le faire dans des conditions bonnes. C'est pour ça qu'on a fait un plan de départ volontaire. Il n'y a aucun départ contraint. Effectivement, il y a un certain nombre de postes qui évoluent dans le temps. La comptabilité d'il y a 50 ans n'est plus du tout la même comptabilité qu'aujourd'hui. Vous avez l'intelligence artificielle, vous avez les nouvelles technologies qui arrivent. Et donc, il faut anticiper tout ça et permettre aux personnes de ne pas être coincées dans un développement professionnel.
L'interview complète de Florent Ménégo, le patron de Michelin, avec Nathan Cocampo, à retrouver en replay, en podcast, sur bfmbusiness.com. Et puis, dans le secteur auto, toujours, le chinois BYD annonce qu'il va investir près de 2 milliards d'euros en Europe pour déployer des bornes de recharge rapide, ultra rapide même. Il vise 3000 stations sur le continent d'ici à l'an prochain.
8h36, Annalisa Capellini, la presse internationale, et ça se tend entre les Chinois et les Européens.
Oui, parce que les autorités chinoises ont annulé deux réunions diplomatiques importantes avec l'Union européenne ce mois-ci. C'est une information du Financial Times. Il n'y a pas de raison particulière qui a été évoquée, mais ça fait partie de la stratégie de Pékin qui veut manifester son mécontentement face à toutes les mesures qui se discutent en ce moment à Bruxelles pour protéger l'industrie européenne. Et en effet, les tensions entre les deux superpuissances commerciales s'intensifient. C'est ce qu'on lit dans les pages du Financial Times, puisque les exportations chinoises vers le bloc européen continuent d'augmenter.
C'est l'ouverture de la Coupe du Monde de football et c'est un événement très géopolitique.
Oui, est-ce que ça sera la Coupe du Monde de Donald Trump? C'est du moins ce qu'il explique. Ce sont les Italiens de Il Sole qui nous le racontent. Oui, cette Coupe du Monde risque de se transformer en une histoire de flagornerie présidentielle. Elle se déroule selon les règles de Donald Trump, puisque les impératifs politiques et économiques de l'America First s'abattent sur les terrains de l'Amérique du Nord, grâce aussi à la complaisance de Gianni Infantino, le président de la FIFA. D'ailleurs, on parle de terrain de l'Amérique du Nord parce qu'il y a aussi le Mexique et le Canada qui organisent cette Coupe du Monde. On les oublie parfois. Le Temps, le journal suisse, se concentre sur le Mexique qui lance ce soir la compétition à l'ombre du géant américain. C'est vrai que les États-Unis se taillent la part du lion. Le Temps raconte donc comment le Mexique essaye d'exister malgré tout.
Merci beaucoup Annalisa Capellini. On vous retrouve dans votre podcast aujourd'hui autour de la Coupe du Monde. Ce sera aussi votre sujet.
Exactement, puisque les Iraniens participent, alors ça sera effectivement très tendu entre les Iraniens et les Américains. Comment ça va se passer? On en parle dans l'Ordre du Monde.
À retrouver évidemment sur toutes les plateformes de podcast. Un arrêt sur la politique française avec notre invité qui nous attend, Guillaume Garot. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes député socialiste de Mayenne. Il y a votre proposition de loi visant à lutter contre les déserts médicaux qui revient aujourd'hui au Sénat. Elle a subi pas mal de modifications. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui de très important pour permettre enfin à chaque Français d'avoir accès à un médecin ?
Il en manque l'essentiel, surtout au moment où je vous parle. Le texte qui sera présenté ce matin aux sénateurs a rayé l'idée même de la régulation de l'installation de nos médecins, hein, généralistes, spécialistes, et d'ailleurs quel que soit leur statut, libéraux ou salariés. Qu'est-ce que nous proposons dans notre proposition de loi qui a été adoptée ici à l'Assemblée nationale à une très large majorité, c'était en mai 2025. Ce que nous proposons, c'est que un médecin ne puisse plus s'installer dans une zone qui est déjà correctement dotée en présence médicale. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que aujourd'hui, les inégalités ne cessent de se creuser entre les territoires et donc entre les Français, entre les patients. Il y a toujours plus de médecins à venir exercer dans des territoires qui sont déjà très bien dotés et toujours moins à ne plus s'installer et donc à quitter par cessation d'activité, départ en retraite, les territoires où c'était déjà en grande fragilité il y a 10 ans. Donc, si on ne fait rien, on va se retrouver à horizon de 5 ans avec des territoires où il n'y aura plus du tout de médecins. C'est pas admissible dans notre République et j'insiste là-dessus. Parce que l'accès aux soins, l'accès à un médecin, c'est un des piliers de notre pacte républicain. On paye tous les mêmes cotisations sociales, on paye tous les mêmes impôts. Donc on doit tous avoir le même accès à la santé et aux soins.
Ça sera possible avec la loi telle qu'elle est. Je suis désolée, on n'a pas beaucoup de temps, mais ça sera possible avec la loi telle qu'elle est aujourd'hui, telle qu'elle est au Sénat. Ça va changer, ça, sur le désert médical ou pas ?
Hélas non, ou en tout cas à la marge uniquement si le texte de la commission du Sénat est adopté tout à l'heure en séance publique. Nous, ce que nous souhaitons, c'est qu'il puisse y avoir un vote conforme au Sénat à ce qu'était le texte adopté à l'Assemblée nationale. Pourquoi ? Pour une raison extrêmement simple. Si le texte est adopté au Sénat dans les mêmes termes que celui de l'Assemblée nationale, la loi, elle est adoptée. Ça veut dire que la loi, elle est ensuite appliquée. Or, je signale juste qu'il y a une urgence aujourd'hui. Il y a des millions de Français qui n'ont pas de médecin traitant. Il y a des millions de Français qui n'arrivent pas à avoir un rendez-vous chez le spécialiste, chez le dermato, chez le gynécologue, chez l'ophtalmo. C'est ça la réalité aujourd'hui. Et donc, il faut trouver des nouvelles solutions en plus de celles qui ont été mises en œuvre jusqu'à présent, qui coûtent extrêmement cher et qui n'ont pas produit les résultats qu'on attendait.
Merci beaucoup Guillaume Garot d'avoir été avec nous ce matin sur BFM Business. Dans un instant, le club de la bourse, Étienne Brac, qu'est-ce qu'on attend sur les marchés ?
-0,2, -0,3%, c'est un petit peu l'ordre de grandeur en préouverture pour les grands indices européens. Les marchés attendent bien sûr la réunion de la BCE tout à l'heure, en début d'après-midi, et demain, SpaceX, puisque ça sera la première séance de SpaceX avec une introduction qui devrait battre tous les records.
Dans un instant, Thibaut Prébet et Benoît Béjoc qui vont nous rejoindre. Vous ne bougez pas, à tout de suite.
Good Morning Market, le club de la bourse.
8h43 sur BFM Business et sur AMC Life. Le club de la bourse ce matin, c'est avec Thibaut Prébet. Bonjour, économiste bonjour. Indépendant. À côté de vous, Benoît Béjoc. Bonjour, vous êtes bonjour. Stratégiste quantitatif chez ABN AMRO Investment Solutions. On a deux gros sujets, Étienne, quand même, aujourd'hui. La BCE, oui. Parce que c'est jour J, et SpaceX. La BCE s'est actée. La hausse des taux, on y arrive.
Oui, le marché anticipait même 2 à 3 hausses de taux sur l'ensemble de l'année. 70 points de base, c'est un peu l'ordre d'idée sur l'ensemble de l'exercice. Et du côté de SpaceX, on a de plus en plus d'informations qui montrent que ça va vraiment être l'introduction de tous les records, hein, avec notamment hier soir Reuters qui évoquait 250 milliards de demandes, sachant que pour rappel, cette introduction en bourse n'est pas totalement terminée. Bon nombre de plateformes permettent encore de participer jusqu'à ce midi, donc on sera bien au-delà. Hein. Pour rappel, vous avez un groupe qui souhaite lever 75 milliards de dollars, hein, donc c'est une opération qui sera très largement sursouscrite avec une capitalisation qui devrait frôler demain les 2000 milliards de capitalisation boursière, c'est juste gigantesque, hein. Dès les premières secondes, vous avez un groupe qui va se retrouver dans le top 10 des capitalisations boursières aux États-Unis.
Voilà, vous avez commencé par SpaceX, alors je prends le sujet demain avant le sujet de cet après-midi. Bon. On commence avec SpaceX, bon, on en a vu partout, on peut encore en acheter jusqu'à ce midi,
oui.
Avec une sursouscription qui va être dingue, vous regardez comment, Benoît Béjoc.
Bah, l'engouement est très fort, forcément, parce que le business model est en fait à la croisée de plusieurs thématiques qui sont actuellement très stratégiques, dans lesquelles on voit une tendance, un momentum, l'espace, l'IA et la connectivité via Starlink. Donc, on peut comprendre un engouement, il y a peut-être aussi une sorte de fear of missing out autour de SpaceX.
Oui, il faut en avoir, quoi.
Exactement, pour en avoir. Et in fine, qu'est-ce qu'on remarque ? Bon, bah, c'est sur souscrit. Une fois qu'on a dit ça, miser sur SpaceX, c'est miser en fait sur un titre d'hypercroissance. Concrètement, c'est miser sur le fait qu'Elon Musk a raison sur ses trois paris, c'est-à-dire qu'il va réduire le coût de mise en orbite, puis il va continuer la croissance de Starlink et qu'il va réussir à mettre des data centers dans l'espace. C'est vraiment de l'hypercroissance parce qu'on ne peut pas se baser sur des fondamentaux étant donné que les valorisations sont absolument délirantes. Il faut croire dans l'idée que ça va marcher. Après, en termes de réaction de marché, ce à quoi on peut s'attendre une fois l'IPO lancé, on sait qu'il y a une part assez importante de retail, hein, qui est destinée au retail, donc potentiellement une volatilité assez importante après l'IPO, selon les clauses aussi de détention minimum. Donc ça, c'est ce à quoi on peut s'attendre, 30% destiné au retail contre 5 à 10% d'habitude.
Thibaut Prévet, est-ce que c'est une arnaque pour particulier SpaceX?
Non, c'est pas vraiment une arnaque parce que les particuliers, ils ont envie, hein. C'est une religion, Musk.
Ah non, mais ils sont d'accord, mais.
C'est une religion, Musk. Il raconte n'importe quoi tout le temps, tout le monde achète. Je rappelle qu'en 2021, il disait qu'en 2030, Tesla vendrait 20 millions de bagnoles par an. On n'est même pas au 12e et c'est en décroissance. Et ils nous refait un pari qui est tout aussi délirant et tout le monde y va. Moi, je trouve ça fascinant. C'est une religion, hein. Je sais que quand on dit ça sur les plateaux, tout le monde vous insulte, alors que je vous assure que si je dis que la BCE fait n'importe quoi, ça va déranger personne. Tout le monde va très bien dormir. 2.1, quand on est habitué des marchés obligataires, on sait qu'il y a des notions d'indices. Il y a des gens qui doivent en avoir. 8 fois sur souscrit sur l'obligataire, c'est ultra classique. Donc quand on a des grosses introductions, des vrais sujets d'indices, c'est pas un facteur incroyable. Et ça peut très bien très vite monter au début parce qu'il y a des gens qui doivent en avoir et se casser la gueule ensuite, ce qui est généralement ce qui se passe sur les introductions en bourse. Maintenant, voilà, il y a des gens qui veulent en avoir, c'est sympathique, il y a un côté très intellectuel, élitiste, on se projette. La réalité, c'est qu'il y a des boîtes qui ont beaucoup plus de croissance, comme Nvidia, qui sont infiniment moins chères tout en étant beaucoup moins risquées. Donc on n'est pas dans un truc rationnel. Encore une fois, c'est de la religion. Si on était critique, on dirait de la secte. C'est comme ça. Mais pourquoi pas ?
Qu'est-ce qui fait que vous en avez pas ? Parce qu'on voit les promos partout, enfin même les banques vous proposent d'en acheter. Qu'est-ce qui fait que vous en aurez ou vous en aurez pas ? Étienne, vous avez la réponse à ça ou pas ?
Il y a une hype, hein. C'est vrai que tout le monde a envie de participer à cette aventure, un petit peu à un effet FOMO. Moi, ça me fait un petit peu penser aux différents épisodes qu'on a pu avoir ces derniers temps, notamment sur les cryptos, hein, où au final, il y a un tel engouement que vous dites, bah, il faut y aller. De toute façon, là, l'opération sera tellement sursouscrite que ça va forcément exploser à la hausse demain. Il y a de fortes chances, hein, forcément.
Mais tout le monde n'en aura monde... pas.
Bah, et donc, forcément, du coup, il faudra en acheter sur le marché secondaire demain pendant la séance. Et donc, il y aura forcément un effet boule de neige à court terme, hein, parce qu'il faut pas oublier que pour l'instant, c'est 5% du capital de la société qui est mis en bourse. D'ici quelques mois, il y aura à nouveau des émissions d'actions.
Du coup, vous mieux attendre le marché secondaire, hein ?
Non, ça peut monter très vite. Justement, qu'au début, quand les gens qui devaient en avoir pour les indices, les ETF vont en acheter, puis après, ça peut plutôt se péter la gueule. Mais il faut rappeler qu'en fait, c'est un peu la gueule du client. C'est-à-dire qu'en fait, quand il y a une allocation comme ça, un, les banques ont la main, font ce qu'elles veulent, hein, c'est pareil sur l'obligataire. Que deux, elles jugent la crédibilité. C'est-à-dire quelqu'un qui en demande 10 fois plus que la taille de son fonds pour en avoir beaucoup, les gens vont considérer que la demande réelle n'est pas celle-là. Donc il y a tout un boulot de retravail des books. Et puis après, il y a des allocations par poche. Il y a les gens qui ont été là dès le début, qui ont permis d'assurer l'introduction en disant moi j'en prends beaucoup, qui seront mieux valorisés que ceux qui arrivent à la fin. Donc c'est un mécanisme assez complexe, l'allocation par rapport aux demandes. Il y a une partie gueule du client et une partie assez rationnelle.
Benoît.
Sachant que, quand même, ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est qu'il y a les actionnaires de longue date, c'est-à-dire que les fonds de venture capital, les salariés de SpaceX, qui là vont avoir un créneau de liquidité. Alors pas tout de suite, parce qu'il y a souvent des options de lock-up, donc ils doivent les détenir les actions un minimum de temps, mais on peut s'attendre à dans un an ou deux ans.
Parce qu'ils vendent.
Et qu'ils vendent, en fait, tout simplement. Et pas parce qu'ils croient pas nécessairement dans le business model, ça regarde chacun. Néanmoins, ils peuvent vouloir par là une idée un petit peu de liquidité et une prise de bénéfice, parce que la valorisation a nettement augmenté.
Et comment vous analysez là la baisse sur le Nasdaq des derniers jours ou du Bitcoin ? C'est des gens qui cherchent du cash pour réinvestir dans SpaceX, c'est quoi ?
Ça peut être potentiellement ça. Alors, pas que ça, je pense. Il y a cet effet-là, parce que forcément SpaceX vient sur des thématiques très importantes sur lesquelles, jusqu'à présent dans le marché, on avait une sorte de prime de rareté. C'est-à-dire que notamment sur l'intelligence artificielle, quand on voulait jouer les gagnants de l'intelligence artificielle, on allait vers les titres que l'on connaît, les acteurs qui sont déjà présents. Là, forcément, de nouveaux acteurs arrivent, je parle de SpaceX, mais avec les nouvelles IPO, donc il faut dégager du cash pour ensuite investir sur ces acteurs-là. Mais il y a aussi tout de même un effet qui est assez important dans ce dégagement de flux vers vers SpaceX et le fait que les marchés baissent, c'est les derniers résultats des grosses boîtes d'intelligence artificielle.
On a vu Oracle
Exactement. Et en fait, Broadcom et Oracle, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que c'est des très bons résultats, des earnings per share qui surprennent à la hausse, un chiffre d'affaires qui surprend à la hausse. Par contre, les investisseurs voient toujours plus de dépenses et toujours pas de monétisation à long terme. En 2027, c'est ça qui pénalise Oracle. Ils n'ont pas revu à la hausse leurs revenus liés à l'intelligence artificielle. Et ça peut expliquer aussi cette petite volatilité sur le Nasdaq et la baisse des cours récente.
Il nous reste 4 minutes pour dire du mal de la BCE, comme vous dites, Thibaut Prébet, avec cette hausse de taux qui est prévue, intégrée dans les cours cet après-midi. Est-ce que c'est une erreur?
Oui, c'est une erreur. C'est pas une erreur très très grave parce qu'on n'est pas à des niveaux énormes et qu'on parle de 0,25. Mais vous aurez du mal à trouver un économiste qui pense
On a trouvé.
Bravo. Alors, mais je suis très forte, Laure. Oui. Depuis longtemps, je suis impressionné.
Mais on a cherché volontairement.
Voilà. Mais c'est vrai que si vous voulez considérer qu'une banque centrale peut rouvrir le détroit d'Ormuz, ça n'a aucun sens. Donc, ça veut dire qu'elle ne peut rien faire contre l'inflation. Et si elle peut rien faire contre l'inflation, son seul autre boulot éventuel, c'est de casser une boucle prix-salaire qui n'existe pas. Donc aujourd'hui, ça n'a aucun sens. On va se refaire une connerie comme en 2008 et en 2011. On a survécu, c'est pas très grave, mais il n'y a pas de narratif pour justifier ça. Ça n'a aucun sens. Et c'est encore comprendre que c'est un sujet d'État que les banques centrales devraient mieux financer. C'est pas un sujet de banque centrale que de gérer un choc géopolitique. Peut-être qu'un jour elles vont le comprendre. On n'y est pas encore.
Benoît Jacques.
Je rejoins totalement ce qui vient d'être dit. On considère aussi que c'est une erreur potentiellement de politique monétaire. Alors 25 bips à court terme, ça change pas grand-chose effectivement. Le gros risque viendrait plutôt si la BCE venait à s'engager dans un cycle de resserrement monétaire assez important. C'est-à-dire que là, les marchés anticipent que 2 à 3 baisses avec des pauses entre à 3 hausses, pardon. Merci, ouais. Jeanne. 2 à 3 hausses. Ouais,
c'est un souhait, ça.
Ouais, on aimerait tellement que du coup, voilà. Mais et pour le moment pas un cycle agressif. Mais effectivement, quand on regarde les métriques factuellement, il y a un petit peu de montée d'inflation corps et des services, mais c'est des liens indirects à l'énergie sur lesquels on sait que la BCE n'a pas de pouvoir. Et elle peut éventuellement se baser sur les anticipations d'inflation à long terme, mais on sait quand même que cette mesure est peu fiable. Elle est très corrélée aux mesures d'inflation aujourd'hui, ce qui n'a peu de sens pour les mesures d'anticipation d'inflation à long terme. Donc à ce stade, peu de raisons pour la BCE de monter les taux, effectivement.
Etienne, on écoutera dans le détail du coup le discours de Christine Lagarde. Est-ce que les mots vont être importants?
Et d'éventuels indices sur les futures hausses de taux qui sont anticipées par le marché, notamment en septembre. Le marché pense qu'il y aura à nouveau une hausse de taux de 25 points de base en septembre. Et puis également peut-être des commentaires sur le bilan de la BCE, parce qu'on parle beaucoup des taux, mais il n'y a pas que les taux, il y a tout un tas d'outils qui permet d'agir sur la politique monétaire.
Il nous reste une grosse minute pour parler du corps avec ce rapport cette semaine publié sur des nouveaux indicateurs de l'INSEE. Thibaut Prébet, c'est votre cam maintenant, la démographie.
Ça a toujours été, faites pas semblant.
Non, mais parce que c'est la matière mère, la démographie de l'économie. Là, on voit clairement que le débat sur le fait de travailler plus va revenir. On remet les 67 ans sur la table. Vous dites il était temps, c'est la seule manière d'avancer?
Oui, en fait, il y a deux éléphants dans la pièce qu'on n'évoque pas. Le premier, c'est qu'effectivement, on avait historiquement une retraite qui était placée à l'espérance de vie. Donc quand il y a 20 ans d'écart, maintenant, il faut travailler plus longtemps, il n'y a pas le choix. Mais on a deux éléphants dans la pièce qui sont complètement absents du débat.
En une minute.
En 30 secondes. Le premier, c'est qu'on va prendre 2 points dans les dents de déficit d'ici 2070. Mais si on n'était pas à 6, ce serait pas très grave. Le premier problème, c'est qu'on a déjà trop de déficit. Donc, de toute façon, comme il faut aussi réduire le déficit, faudra tous les leviers. Baisser les pensions, augmenter les cotisations, etc. Deuxième point, le plus pénible quand vous allez à l'étranger, c'est que la partie santé est beaucoup plus dure. On a les mêmes problèmes de pas assez de cotisants, de trop de gens. La technologie n'aide pas parce que quand vous soignez les malades, ils peuvent avoir de nouveaux traitements coûteux. Donc, en fait, l'équation qu'on a, c'est la mise en bouche, c'est le plus facile, on n'y arrive pas. Alors que le truc le plus dur arrive derrière. Et donc, tout ça me rend inquiet en une minute.
Donc vous dites 67 ans, plus baisse des pensions, plus hausse des cotisations.
Bien sûr.
Ça va faire beaucoup.
Oui, mais c'est sur une durée longue quand même, mais il faut prévoir.
Oui, ça, politiquement, ça s'appelle du sang et des larmes. Ça,
c'est moche, hein.
C'est difficile à vendre.
Et vous comprenez pourquoi personne ne le propose.
Oui, c'est ça. On préfère avoir un autre discours.
Je ne serai pas candidat à la présidentielle.
Vous ne serez pas élu. Merci beaucoup, Thibaut Prébet, Benoît Béjoc. Bienvenue ce matin dans la matinale de l'économie. Etienne, ouverture dans 5 minutes. Qu'est-ce qu'on attend?
CAC 40 qui baisse de 0,2% en préouverture. C'est vrai qu'on a une matinée qui va être sûrement un petit peu poussive avant la BCE. Néanmoins, les indices européens continuent de surperformer depuis quelques jours Wall Street, puisque hier soir, on a 3 indices américains qui ont lâché peu ou 2%. Le Nasdaq perd 6% depuis jeudi soir.
Bon, faut dire qu'Oracle a perdu 10%.
Oui, ça c'était en après-bourse. Et puis on a également eu des mouvements assez importants sur le secteur des semi-conducteurs qui, pour rappel, avait quasiment doublé depuis le début de l'année. Donc là, il y a des prises de profit qui sont assez faciles et compréhensibles.
Demain, le gros morceau, SpaceX, émission spéciale à partir de 6h avec l'ensemble de nos invités. On parlera beaucoup spatial. Est-ce que Musk a raison quand il pense qu'on va pouvoir aller sur Mars? On en parlera notamment avec Georges Naon, ancien directeur général de l'Orange à la Silicon Valley. On sera également avec Olivier Lascar, rédacteur en chef de Science Avenir. Et puis tout le gratin du New Space français, Hélène Hubi et Stanislas Maximin, notamment. Je vous dis à demain pour cette émission spéciale. Bonne journée.
BFM Business présente Good Morning Market. Etienne Braque.
8h58, dans un instant il sera 9h, le journal de Léo Dumas. On sera avec Aude Kersulek qui nous attend depuis Francfort, et pour cause, c'est jour de BCE aujourd'hui. Christine Lagarde devrait remonter les taux cet après-midi, tous les éléments dans un instant. En attendant, l'ouverture en Europe s'annonce assez poussive, très légère baisse sur les grands indices européens. Néanmoins, l'Europe devrait continuer de surperformer ce matin par rapport à Wall Street. Hier soir, vous avez le Nasdaq qui a cédé 2%, moins 1,8% même pour l'indice Dow Jones, le Dow Jones qui s'en sortait plutôt bien, souvenez-vous, vendredi ou encore lundi, quand il y avait eu des prises de profit sur le secteur technologique. Coca-Cola était l'un des rares titres, est sur un record historique hier à Wall Street. C'est quand même tout un symbole. Ça montre bien qu'on a des investisseurs qui prennent du recul par rapport à l'intelligence artificielle avant l'IPO demain de SpaceX. Et puis surtout, hier soir, tout le monde attendait une chose, c'était les résultats. Donc, le titre était en baisse de plus de 10% hier soir en après-bourse. Nous parlerons de tout cela avec Alexandre Baradez, chef analyste d'IG. Jean-Louis Cussac nous accompagnera également. Et puis en début d'émission, Louis Bercin reviendra sur TSMC qui a publié hier son chiffre d'affaires mensuel. Car oui, vous avez un groupe qui publie chaque mois son chiffre d'affaires et vous avez des ventes au mois de mai qui étaient en hausse de plus de 30% par rapport à mai 2025. Tous les détails, ça sera donc dans quelques instants avec les équipes de la financière de l'Échiquier. En attendant, il est quasiment 9h et c'est donc toute l'information économique du jour avec Léo Dumas.
Good Morning Market, le journal.
Et au moment où la BCE se réunit, il y a un regain de tension au Moyen-Orient. Les États-Unis ont mené de nouvelles séries de frappes cette nuit à travers l'Iran, ciblant des installations militaires, des systèmes de communication et des sites de défense. Selon le commandement militaire américain, les gardiens de la révolution, eux, ont répliqué sur des bases américaines au Koweït, à Bahreïn notamment. Ils affirment avoir fermé le détroit d'Ormuz sans affoler. Pour autant, ce matin, le marché du pétrole avec un baril de Brent qui tourne autour de 93$, ce qui reste 30% de plus qu'avant le début du conflit. Et c'est donc ça qui devrait pousser la BCE à relever ses taux d'un quart de point cet après-midi. La première hausse en près de 3 ans. Et vous êtes sur place, Aude Kersulek, à Francfort pour BFM Business en direct. Cette hausse de taux est quasi actée. Elle est aussi anticipée par les marchés.
Oui, parce qu'en avril, lors de la dernière réunion, Christine Lagarde avait indiqué qu'une hausse de taux avait à ce moment-là longuement été discutée, mais que les données étaient encore manquantes à ce stade. Alors depuis, on a d'autres responsables de la BCE qui se sont exprimés, dont Philippe Lane. Il est important parce que c'est le chef économiste et c'est lui qui soumet une proposition de mouvement sur les taux au vote des gouverneurs. Et lui, il a indiqué dans un récent discours qu'il considérait que le choc sur l'énergie était plus violent cette fois-ci que celui il y a 4 ans lors du déclenchement de la guerre en Ukraine. Alors, dans les chiffres, l'inflation globale monte. On est passé de 1,9% en février sur un an avant la guerre en Iran à 3,2% en mai. C'est le dernier chiffre connu. Cette inflation, elle est évidemment tirée par les prix de l'énergie. Elle est au-dessus maintenant de la cible de 2%. Et ce que redoute la BCE, c'est les effets de second tour, c'est-à-dire que la hausse du prix de l'énergie influence et alimente le prix sur l'alimentation, sur les services ou encore sur les salaires. Donc c'est pour ça qu'elle veut monter les taux pour refroidir l'économie, freiner la demande et avoir un impact sur les prix. Le taux de dépôt devrait donc monter à 2,25%, une décision qui devrait être nettement critiquée.
Aude Kersulek en direct de Francfort pour BFM Business. Deux informations ce matin côté commercial sur le front des droits de douane. Les premiers remboursements qui sont tombés. Le département américain du Trésor a indiqué hier avoir rendu au mois de mai 22 milliards de dollars de ces surtaxes illégalement prélevées sur un total estimé à presque 170 milliards. Et puis dans le même temps, ça se tend entre Pékin et Bruxelles. Les autorités chinoises ont brusquement annulé deux réunions diplomatiques diplomatique de haut niveau avec les Européens ces derniers jours. C'est une information du Financial Times. La Chine, qui devait recevoir ces rendez-vous, ne s'est pas justifiée. Mais il s'agit, selon le journal, d'une tactique pour manifester son mécontentement face aux discussions du moment à Bruxelles pour protéger l'industrie européenne.
Merci beaucoup Léo Dumas. Dans un instant, tous les détails sur la séance du jour, le CAC 40 qui est quasiment stable à l'ouverture. Nous parlerons du secteur du luxe avec Berenberg qui passe à vendre sur bon nombre de valeurs. Juste avant, un mot des experts que vous retrouvez tous les jours autour de Raphaël Legendre, 9h30, 10h30.
Ouais, tiens, rendez-vous dans une petite demi-heure. On va parler de la BCE qu'on vient d'évoquer effectivement avec la réunion. Aujourd'hui, la BCE qui doit s'exprimer alors que les États-Unis ont mené de nouveaux bombardements contre l'Iran. On va voir l'impact sur l'inflation, on va voir l'impact sur le pétrole qui réagit peu aussi. On aura aussi du salon Eurosatory qui ouvre ses portes lundi prochain à Villepinte, le plus grand salon de la défense. On va voir si la France est au rendez-vous de ses promesses militaires. Il paraît que c'est le salon de tous les records cette année. On parlera aussi de la prime d'activité. La Cour des comptes vient de rendre un rapport assez sévère sur les effets de la prime d'activité sur l'emploi. Des effets qui ne sont pas démontrés, alors qu'elle coûte quand même plus de 10 milliards. Et puis enfin, on reviendra sur la présentation par Bruxelles de son paquet Omnibus 4 pour les PME et les ETI. Est-ce que l'Europe se met enfin à simplifier? Ce sera le dernier thème des débats des experts ce matin. Rendez-vous à 9h30.
En attendant, il est 9h03 et donc le CAC 40 étale ce matin l'ouverture. Plus 0,1%, 8170 points, plus 0,3% pour l'Eurostox 50 qui est toujours au-delà des 6000 points. L'Eurostox 50 qui est tiré notamment ce matin par Deutsche Telekom qui gagne un peu plus de 3%. Les marchés reviennent très clairement sur les valeurs défensives. Ça s'est vu hier à Wall Street. Typiquement, Coca-Cola était l'une des rare valeur à être sur un record historique. Et puis ce matin, eh bien, vous avez les télécoms qui tirent la cote. Typiquement, Orange gagne 0,6%. Vous avez des autres valeurs défensives comme Thales également qui gagne un peu plus de 0,8%. Et puis à l'inverse, vous avez les valeurs cycliques qui sous-performent très légèrement. En attendant, on n'a vraiment pas de tendance claire. Du côté de l'actualité des entreprises, c'est toujours assez calme ce matin. Vous avez Kering qui cède 0,6% avec notamment Berenberg qui revoit à la baisse son objectif de cours passant de 190 à 175. Il revoit également à la baisse leur objectif de cours sur Hermès de 2600 à 1850 ou encore sur LVMH de 560 à 420. Légère réaction sur ces titres, mais là aussi on a quand même un marché qui se cherche un petit peu avant bien sûr la BCE cet après-midi et puis également l'introduction en bourse de SpaceX. Très attendu, ça sera bien sûr demain, première journée de cotation. BFM Business sera en édition spéciale à ce sujet. Très courte pause, on se retrouve dans un instant avec les équipes de la financière de l'échiquier pour revenir notamment sur les ventes mensuelles de TSMC. Titre qui gagne quand même 45% depuis le début de l'année. Est-ce qu'il faut encore accompagner cette méga cap? Élément de réponse dans un instant, à tout de suite.
BFM Business présente Good Morning Market. Étienne Brack.
9h08, deuxième partie de Good Morning Market. Et comme chaque jour aux alentours de 9h10, nous allons parler de valeur avec ce matin Louis Bersin qui vient de nous rejoindre. Louis Bersin, gérant Action Internationale à la financière de l'Échiquier. Bonjour Louis, merci de nous accompagner ce matin pour nous ouvrir les portes de vos fonds et nous partager un petit peu vos convictions. Il ne s'agit pas bien sûr de donner des avis d'achat, c'est un petit peu montrer comment ça se passe aujourd'hui en portefeuille et comment on peut avoir une allocation diversifiée à un moment où Wall Street est proche de ses records historiques. Certes, le Nasdaq a perdu 6% depuis jeudi, mais quand on dézoome un petit peu depuis le début de l'année, on a quand même un parcours stratosphérique grâce notamment aux valeurs liées aux semi-conducteurs. Alors ça tombe bien, hasard de calendrier, venez le lendemain de la publication des ventes mensuelles de TSMC. C'est l'un des rares groupes à faire un point d'étape tous les mois sur ses ventes. Plus 30% pour les ventes de TSMC par rapport à mai 2025, on ne parle pas là d'une biotech quand même pour Apple.
Oui, c'est ça qui est intéressant, vous l'avez dit donc sur TSMC. C'est le cas pour certaines valeurs asiatiques d'ailleurs de publier de manière plus fréquente, donc sur un rythme mensuel, leurs ventes. Il faut dire déjà qu'au premier trimestre, c'était une croissance des ventes de 35%, donc qui était déjà très forte. Et là, ça se confirme encore en mai 2026. Donc ils ont publié 30% de croissance de leurs ventes sur ce mois par rapport à l'année dernière, pour une valeur qui traite à 21 fois les bénéfices à 12 mois. Donc TSMC, pour rappel, c'est une entreprise incontournable dans le monde des semi-conducteurs. C'est la fonderie de référence pour les puces logiques avancées et en particulier pour les puces d'intelligence artificielle. Si on se penche sur les puces de logique qu'on retrouve dans le monde, donc les dernières puces de microprocesseurs, de cartes mères ou de puces pour l'intelligence artificielle, dans 90% des cas, ces puces sont fabriquées à Taïwan par TSMC.
Alors vous l'avez dit, c'est un titre qui se paye environ 20 fois les profits attendus l'an prochain. Hein, donc dans son secteur technologique, ce n'est pas la valeur la plus chère. Exactement. Reste à voir si les profits attendus seront vraiment délivrés. Aujourd'hui, vous avez un groupe qui, comme vous l'avez souligné, a un large monopole sur tout un tas de secteurs. Est-ce que demain, il ne faut pas craindre l'arrivée de concurrents qui prennent des parts de marché et bien sûr, ça aurait un impact sur les marges qui sont aujourd'hui énormes. Hein, parle de marge brute, de marge nette au-delà de 50%.
Oui, et en tout cas, c'est déjà le cas pour l'entreprise d'arriver à traduire cette croissance du chiffre d'affaires en croissance du résultat. Donc sur le premier trimestre, 35% de croissance du chiffre d'affaires, ça s'est traduit par 58% de croissance des bénéfices. Est-ce que c'est amené à se poursuivre dans le temps? En tout cas, les chiffres les plus récents indiquent que c'est plutôt le cas. Et là où on pense qu'il y a une force pour la société vis-à-vis de concurrents potentiels, c'est que d'abord, arriver à avoir une telle activité, une telle envergure, ça requiert des centaines de milliards de dollars investis. Donc ça, c'est une barrière à l'entrée qui est considérable. Et surtout, du côté de TSMC, il y a un savoir-faire qui a été construit, pas sur plusieurs années, mais sur véritablement plusieurs décennies de fabrication de semi-conducteurs sur les niveaux de gravure les plus petits. Donc à chaque fois, on essaie de miniaturiser au maximum les semi-conducteurs. Là, on est sur une bascule de 3 nanomètres à 2 nanomètres de gravure. Et là, ils sont vraiment à la pointe. Et de par leur savoir-faire, la différence qu'ils font, c'est qu'ils ont les rendements les plus élevés sur leur production de semi-conducteurs par rapport aux autres concurrents qui sont quand même loin derrière, donc les Samsung, Intel et GlobalFoundries.
Voilà pour ce titre TSMC, 408 dollars hier soir à la clôture, moins 4%. Hein, c'est vrai que le Nasdaq a perdu quasiment 2%. Bon, néanmoins, le titre gagne toujours donc plus de 45% depuis le début de l'année. Aujourd'hui, ça pèse plus de 2000 milliards hein, en termes de capitalisation boursière. C'est la sixième capitalisation boursière mondiale. Bon, à voir si demain SpaceX va passer devant TSMC en termes de capitalisation boursière. Ça sera vraiment la course des petits chevaux. Ça sera bien sûr à suivre sur BFM Business, journée spéciale pour cette première journée de cotation. Alors, on parle beaucoup de l'IA, de l'intelligence artificielle, des semi-conducteurs. Néanmoins, il n'y a pas que l'IA dans la vie. Et c'est intéressant d'avoir un portefeuille diversifié, surtout en ce moment. Et par rapport à cela, ce matin, vous voulez nous parler d'un champion américain de la santé. Il s'agit de Stryker.
Exactement. Et là, ça va vraiment dans une logique de construction de portefeuille aussi, parce qu'on voit que sur certaines sessions, il peut arriver que les titres liés à la technologie ou à l'intelligence artificielle peuvent marquer le pas. Et on va avoir aussi en portefeuille des valeurs qui peuvent prendre la suite lorsqu'on est dans ce genre d'événements de marché. C'est le cas avec Stryker, donc c'est une valeur du secteur de la santé. On constate qu'il y a tout un tas de secteurs, et surtout le secteur de la santé, qui ont été délaissés au profit de l'IA. Et parfois, on a des champions de certaines industries qui sont totalement oubliés du marché. Stryker donc, a souffert de ce vent contraire sur le secteur de la santé. Ce qui s'ajoute en plus sur la baisse du cours en début d'année, c'est une cyberattaque qui est venu d'Iran. Donc ça a été pendant justement le début du conflit entre les États-Unis et l'Iran. Il y a une cyberattaque qui a impacté l'entreprise, qui a mis à l'arrêt sur une période courte les opérations de la société. Mais cet événement, il est ponctuel et il est résorbé. Et c'est pour ça qu'on pense que c'est un dossier qui est intéressant, parce que ses fondamentaux restent inchangés. Cet événement ponctuel est derrière nous. Et on a une société qui fait partie des leaders dans tout ce qui est dispositifs médicaux et équipement hospitalier.
Avec un côté donc assez défensif, avec ce positionnement sur le segment de la santé.
Oui, et on voit d'ailleurs dans leurs chiffres, ils ont la très large majorité de leur chiffre d'affaires qui est lié au nombre de procédures médicales, donc souvent des éléments qui vont être utilisés dans une procédure et qui vont être jetés ou qui vont être utilisés juste pour la procédure. Donc ça donne une croissance qui est assez régulière. C'est une entreprise aussi qui bénéficie des tendances démographiques. Notamment, c'est un leader dans le monde de la chirurgie orthopédique, donc les prothèses de genoux, prothèses de hanches. Et sur ce type de patients, on est autour de la soixantaine, des personnes qui ont eu peut-être un peu une usure de leurs articulations, mais qui veulent maintenir un style de vie assez dynamique. Sur ces tendances-ci, on a des tendances qui sont plutôt porteuses à long terme pour l'entreprise.
Merci beaucoup, Louis Bersin, nous a accompagnés ce matin pour nous partager les convictions de vos portefeuilles à la financière de l'échiquier, avec donc Stryker qui est coté à Wall Street, un titre donc qui baisse depuis le début de l'année de l'ordre de 10%. Nous sommes à 308 $, en tout cas hier soir à la clôture. Et donc TSMC qui pour vous reste à un prix raisonnable malgré l'envolée du titre ces derniers mois. 9h15, on va continuer à parler de la tendance et surtout de ce qui se passe sur les marchés financiers avec Alexandre Baradez qui vient de nous rejoindre en plateau. Bonjour Alexandre, chef analyste d'IG. Je le disais en préambule, Nasdaq a perdu 6,3% sur les quatre dernières séances. Oui. Donc on est sur un repli assez significatif, même si quand on dézoome, on est vraiment sur l'épaisseur du trait. Comment vous expliquez un petit peu ce revirement? Alors c'est vrai qu'il y a une semaine ou presque, on a eu les résultats de Broadcom, le titre avait perdu 10%. Bon, hier c'est Oracle qui était à moins 10 là aussi après la publication de ces résultats. Est-ce qu'il y a une forme un petit peu de lassitude de ces augmentations de capital, que ce soit sur SpaceX, que ce soit sur Oracle, encore hier qui dit on va lever 20 milliards de plus, Supermicro 7 milliards, enfin bref, tout le monde en ce moment souhaite de lever de l'argent pour l'IA.
C'est un peu la grosse différence par rapport au cycle qu'on a observé pendant les années précédentes. En fait, on était dans un schéma depuis 2000 grosso modo de rachat d'actions récurrent de ces groupes. À chaque fois qu'ils annonçaient leurs résultats, on était sur des annonces. Alors les dividendes progressaient relativement peu, ça c'est pas le fort de la tech parce que c'est des boîtes de croissance, mais en revanche ce qui était très souvent annoncé, c'était des niveaux de rachat d'actions. Donc on diminue le flottant, on diminue le nombre d'actions en circulation, et ça forcément c'est favorable aux actionnaires, ça renforce les bénéfices par action. Et ce qu'on observe, et vous l'avez bien décrit depuis quelques semaines maintenant, c'est des annonces de l'autre côté, à la fois Alphabet qui explique qu'ils vont émettre pour 80-85 milliards d'actions nouvelles, et puis des sources qui laissent entendre que Meta pourrait faire pareil également, donc pour financer le développement de l'IA. Donc cette fois-ci, c'est plus seulement un recours aux fonds propres, au cash, c'est plus seulement un recours à la dette classique, c'est-à-dire par émission obligataire. Désormais, on voit que les méga-caps américaines parlent très clairement d'émettre des actions nouvelles, donc c'est l'opposé de rachat d'actions. En fait, vous diluez un petit peu l'actionnariat existant. Et vous l'avez décrit, c'est à la fois, c'est un mix en fait, cette correction, elle n'est pas délirante. Rappelons que Nasdaq, il a pris plus de 30% en 2 mois et demi, et le semi-conducteur, l'indice des semi-conducteurs a doublé en 2 mois et demi. Donc avoir 6, même 10% de baisse derrière ne serait pas dramatique, mais c'est effectivement à la fois Broadcom, des résultats qui sont très légèrement sous les attentes, ces émissions d'actions nouvelles, la question des taux aussi qui reste toujours élevée, l'incertitude géopolitique qui pèse un petit peu, et puis probablement certains font un peu de place effectivement dans leur ligne pour accueillir la gargantuesque IPO de SpaceX qui va nécessiter de la liquidité. Donc il est aussi possible qu'on ait quelques arbitrages au sein des portefeuilles un petit peu en amont de cette introduction en bourse, avec à l'horizon des Anthropic et des OpenAI également.
En tout cas, l'Europe ces derniers jours surperforme par rapport aux États-Unis. L'Europe a été pénalisée par l'absence de grandes valeurs technologiques. Bon, là ces derniers temps c'est une force, typiquement le CAC 40 gagne 0,3 alors que hier Wall Street a perdu 2, donc on est quand même sur un écart assez important. Maintenant la question c'est quoi le relais? C'est quoi le relais en dehors de l'intelligence artificielle?
Alors, le premier relais, il va être d'ordre géopolitique. C'est-à-dire qu'on voit tout à fait en Europe, et tous les indicateurs se sont retournés exactement au moment du début de la guerre en Iran. Quand vous regardiez les indices de confiance en France, consommateurs par exemple, les indices en Allemagne, le ZIU, l'IFO, quand vous regardez les PMI aussi, ces fameux indices d'activité en zone euro, regardez bien sur les 10 derniers mois, vous allez voir que la cassure à la baisse est très nette à partir de mars, avril, mai. Toute cette partie liée au début de la guerre en Iran. Et si vous regardez les indices européens, c'est ça qui les a aussi empêchés d'aller chercher de nouveaux records, contrairement aux indices américains beaucoup plus sensibles à la tech. En Europe, on a des valeurs effectivement plus sensibles à l'énergie, l'Allemagne aussi. Et je dirais que donc le premier gros catalyseur pour l'Europe sera la détente du conflit géopolitique, parce que vous allez avoir une réaction en chaîne positive qui se créera à ce moment-là. Détente géopolitique égale pétrole qui retombe, égale taux qui se détendent, égale banque centrale qui diminue la rhétorique agressive par rapport aux hausses de taux, et puis également vous aurez une diminution du coût de l'argent. Donc on verra, je pense, de manière instantanée, si la géopolitique se détend réellement avec de vrais accords et que le pétrole retombe bien sous les 80 $. Il ne faut pas rester au-dessus de 80, mais entre 70 et 80, vous verrez que les indices européens à ce moment-là, d'un seul coup, auront des réactions beaucoup plus positives, parce que c'est vraiment ça le frein des derniers mois. Et puis aussi, ne pas oublier que l'Europe, alors c'est historique, on sait que l'Europe est moins chère que les marchés américains, américain en termes de valorisation, mais si vous prenez le Stock 600, donc qui est l'indice élargi des valeurs européennes, il se paie 15 fois les bénéfices anticipés, c'est-à-dire exactement sa moyenne de valorisation des 10 dernières années. C'est-à-dire qu'on n'a pas un marché qu'on peut considérer comme cher en Europe. Il n'est pas non plus donné, mais il n'est pas cher. Alors que les marchés américains, eux, par rapport à leur moyenne de valorisation, sont assez nettement dessus. Donc l'Europe n'attend pas grand-chose en fait en termes de catalyseur, et la géopolitique sera le principal d'entre eux, je pense.
La BCE, cet après-midi, qui a probablement remonté ses taux, en tout cas c'est très largement intégré par le marché, hein, qui anticipe au moins 70 points en termes de resserrement monétaire. Est-ce que c'est un sujet ou non, au final, c'est pas un sujet, et au final, tout est dans les cours, déjà?
C'est un vrai sujet. Une hausse de taux n'est pas un très gros sujet à court terme, parce qu'effectivement, on a une inflation sous-jacente en zone euro, c'est-à-dire hors alimentation, hors énergie, qui est remontée à 2,5%. Donc là-dessus, on a un taux de dépôt de la BCE qui est à 2%, le ramener à 2,25 avec une inflation à 2,5, c'est tout à fait correct comme politique monétaire. Ce qui est plus problématique, et ce qu'il ne faudra pas faire, et espérons que l'Iran sera réglé ici-là, c'est la deuxième hausse de taux potentiellement en septembre, voire la troisième d'ici la fin de l'année. Le marché aujourd'hui, si on regarde les anticipations, les probabilités de marché, c'est 55% de probabilité pour une hausse en septembre, ce qui n'est pas négligeable. Et on demandait à l'instant qu'est-ce qui pourrait faire bouger un peu les indices européens. Typiquement ça, des anticipations de hausse de taux qui redescendent en dessous des 50% pour septembre. Et ça, ça va être lié à quoi? Ça va être lié exclusivement à ce qu'on va voir sur les prix de l'énergie et sur l'évolution de la géopolitique. Donc, la réunion du jour, elle va être intéressante. On sait qu'il y aura une hausse de taux, donc ça, c'est acquis. C'est vraiment le discours de Christine Lagarde qui va être intéressant. C'est le communiqué de la BCE qui va être intéressant. Donc, c'est vraiment les projections, en fait, qui vont nous intéresser aujourd'hui, plus que le résultat de la réunion où on sait qu'il y aura hausse de taux.
On est dans une séquence banque centrale. Mercredi prochain, oui. La Fed. Hier, on a eu des données d'inflation aux États-Unis. L'inflation qui est sur des plus hauts de 2023, oui. Au-delà des 4,2. Alors bien sûr, les prix de l'énergie, notamment l'essence, plus 40% hein, au mois de mai. Donc forcément, ça a pris une place importante dans cette inflation aux États-Unis. Alors Donald Trump a toujours l'air de surprendre. Hein. Hier, il a dit qu'il aime l'inflation. Ce sont des super chiffres. Alors bon, c'est assez étonnant. Est-ce qu'il faut voir là le mania de l'immobilier qui parle et donc qui trouve que l'immobilier, que l'inflation, c'est super? En attendant, il essaye de rassurer à l'approche des midterms, bien sûr. Ouais. Après, il dit, vous inquiétez pas, ça va tomber comme une pierre une fois que la guerre sera finie. Bon, en attendant, 4%, c'est pas neutre.
Voilà. Alors, là où il n'a pas tort, c'est qu'effectivement, je pense qu'effectivement, une fois que la guerre sera terminée, que le pétrole retombera, on voit aussi qu'aux États-Unis, il y a eu des effets. Si on les a en Europe, on les a évidemment aussi aux États-Unis, ces effets liés au pétrole. Mais le problème des États-Unis, que nous n'avions pas en Europe, c'est qu'avant la guerre en Iran, vous aviez déjà une inflation qui était assez nettement, toujours assez nettement au-dessus de l'objectif. Alors, en zone euro, il y aurait de l'inflation avant l'Iran, on est effectif, il n'y a pas de souci ce côté-là. Donc c'est ça le problème américain, c'est que leur économie, alors c'est pas un problème, mais ils ont une économie qui est plus résiliente, l'inflation s'est maintenue déjà avant la guerre en Iran, et puis il y a aussi l'effet des taxes douanières. Ça, ils n'en parlent pas trop, mais beaucoup de banques américaines, JP Morgan ou Goldman Sachs, estiment que les tarifs douaniers ajoutent actuellement entre 0,5 et 0,7% à l'inflation sous-jacente, ce qui est beaucoup donc. Hein, c'est grosso modo, s'il n'y avait pas de tarifs douaniers et pas la guerre en Iran, eh bien la Fed serait toujours en train de discuter et aurait même probablement peut-être réalisé une baisse de taux là au printemps. Donc on voit qu'il y a deux gros paramètres hein, pour l'économie américaine. Effectivement, les taxes douanières, il faut que ces effets s'estompent. Et puis, la fin de la guerre en Iran. Et à ce moment-là, oui, Kevin Warsh reparlera de baisse de taux. Mais Donald Trump, effectivement, il essaie de minorer l'inflation, mais 4,2% d'inflation globale. Rendez-vous compte. Et il y a aussi un élément qu'il ne faut pas oublier, c'est que si l'inflation est très forte, les salaires réels aux États-Unis, c'est-à-dire votre pouvoir d'achat réel, il est retombé négatif pour la première fois. C'est-à-dire que les salaires qui progresse de 3 et quelques pourcents avec une inflation à 4%, ben c'est la première fois depuis plusieurs années que vous avez un salaire réel qui redevient négatif aux États-Unis, ce qui implique donc, ce qui signifie une perte de pouvoir d'achat pour les Américains.
Au milieu de tout ça, aujourd'hui, quel est votre biais, Alexandre Baradez, sur le marché action en termes d'allocation de secteurs? Qu'est-ce qui vous intéresse?
Alors, pour moi, il y a trois strates, si vous voulez. Les marchés américains assez chers et portés par la tech, donc en ce moment, je ne suis pas très chaud pour y aller sur ces niveaux de valorisation. L'Europe me paraît attractive sans attendre de miracle à court terme, il y a 15 fois les bénéfices anticipés, avec encore une fois un début année qui s'était plutôt bien passé pour l'Europe. Une fois que la guerre en Iran sera passée, les nuages vraiment vont se dégager et il sera temps d'y aller. Et puis la troisième strate, c'est la partie émergente, mais pas les émergents incluant la tech. C'est les émergents, surtout Chine, en fait, voilà. Voilà, plus trop émergent aujourd'hui, mais je trouve que la Chine est vraiment à des niveaux de prix qui sont plus qu'attractifs actuellement, sur des gros indices type Hang Seng notamment. La tech chinoise ne vaut pas grand-chose en bourse aujourd'hui. Donc voilà, il y a un marché comme ça. Autant la Corée du Sud, ça a flambé avec les Samsung et autres, autant les actions chinoises n'ont pas profité hein, du boom qu'on a eu ces deux derniers mois. Donc je dirais que voilà, de manière très discrète, mais la Chine reste attractive. Et sur les États-Unis, voilà, je méfie un peu de toutes ces annonces, IPO ou autres, et surtout sur la tech que je trouve clairement chère en ce moment.
Merci beaucoup Alexandre Baradez d'avoir accompagné ce matin en plateau, chef analyste d'IG. 9h24, on va faire un petit détour du côté de Perceval Finance Conseil où nous attend Jean-Louis Cussac. Et le CAC 40 qui est finalement dans le vert, plus 0,4%, alors qu'on était en petite baisse en préouverture, 8199 points. Du côté de l'Eurostock 50, c'est une hausse de 0,6%. Tiens, on a Hugo Boss là qui gagne un peu plus de 6% dans le secteur des mid-cap avec un groupe qui propose une OPA sur le groupe Hugo Boss de l'ordre de 2 milliards d'euros. Ce titre Hugo Boss est en hausse d'un peu plus de 6% à Francfort. Bon, sur les niveaux des tendances, là, des indices, comment vous regardez ce qui se passe, Jean-Louis Cussac?
Eh bien, c'est toujours haussier, non affirmé, on va dire, parce qu'il n'y a pas de relais. Donc, on va dire que c'est, on appelle ça une hausse qui est un signal non affirmé. L'idée, c'est d'acheter des replis, mais là, et déjà par rapport à la préouverture, on a progressé de 0,7 hein, en fait depuis l'ouverture du CAC 40. On voit les phénomènes algorithmiques systématiques. C'est vraiment un marché très particulier. Partout, avec de fortes volatilités intraday, parce que entre de fausses déclarations, la guerre psychologique, ça amène beaucoup de confusion chez les investisseurs, aussi beaucoup de prudence. Il n'y a pas de visibilité. Ils retiennent une chose, c'est qu'il y a des tensions inflationnistes et que là, il y a un risque important sur l'évolution des taux, et des décisions futures de la Fed. Bon, alors du coup, ils appuient pas vraiment sur les boutons achat-vente. Et on l'a vu, étant donné la vitesse des replis qu'on a eu à New York, qui a déjà regagné un 35 depuis le plus bas de cette nuit. Hein, vous voyez, ça va vite aussi là, comme hier en fait, hein, comme hier matin. Eh bien, il faut être opportuniste. Il faut soit ne pas faire grand chose, en tout cas être prudent, bien sûr, mais tenter d'acheter avec conviction si on peut en avoir. Des valeurs, c'est pas facile du tout parce que il y a de grosses dispersions dans les performances, il y a une grosse divergence. On avait les services informatiques, les Capgemini, Atos qui avaient beaucoup progressé, enfin surtout Atos, c'était incroyable, elle a tout reperdu. Alors vous voyez, c'est le mouvement, mais plus 40, moins 30%, c'est beaucoup, alors en quelques semaines. Mais ce sont des mouvements assez impressionnants. Alors, un coup, c'est l'IA va détruire le métier. Le lendemain, c'est l'IA va, au contraire, ouvrir des portes et permettre de faire plus de business. Et puis là, du coup, ça rebaisse. Donc, ça doit être que l'IA est probablement destructeur d'activité. Mais allez savoir. Donc, c'est une situation, encore une fois, très, très, très spéciale, avec un CAC 40 qui résiste bien. Les marchés européens résistent bien. Ils ont l'œil un peu rivé sur le pétrole, alors qu'ils ne s'envolent pas. Mais quand même, on peut se poser la question de l'approvisionnement, notamment à la rentrée, la pénurie qu'il pourrait y avoir. Enfin, c'est vrai que les investisseurs voient plutôt les choses du bon côté, en se disant que ça finira par s'arranger. En attendant, le CAC 40, ça fait quoi, 12 séances qui fait du surplace, à peu près, hein, entre 8100, 8300. Il est hyper hésitant. Mais avec des volatilités implicites également qui sont très volatiles. On évolue entre 13 et 17, 18. Il y a sur les actions beaucoup d'intérêts spéculatifs tout de même. Globalement, on voit que c'est très spéculatif. On voit pas d'idées fortes. Il y en a toujours un petit peu, bien sûr, mais globalement, il y a quand même une hyper méfiance et ça qui est pas mal. Là, on pourrait dire qu'on achète sur des replis. Oui, d'accord, mais alors ce matin, moi, j'ai acheté trop bas, parce que aussi on avait un peu acheté hier soir. Mais là, ça serait maintenant, vous voyez, sur des replis vers 8140, mais on est déjà à 8002 sur le futur, donc on va dire que c'est déjà un peu loin. Alors peut-être qu'il va falloir remonter les niveaux d'achat vers 70. Ce qu'il faut retenir, je pense, c'est que le retournement de tendance, je le conserve sous les 7008. Voilà. Et donc, tant qu'on casse pas 7008, alors évidemment, si on s'approche de cette zone, on casse 8000 avec un petit peu de détérioration de géopolitique, enfin, avec des choses vraiment désagréables avec l'Iran et entre l'Iran et les États-Unis, on n'achètera pas systématiquement, bien évidemment, mais pour l'instant, sur le plan technique, c'est 7008 cassé, retournement de tendance. Et donc, actuellement, la hausse n'est pas infirmée. On cherche toujours plutôt des opportunités à l'achat.
plus 0,46% à l'instant, 8199 points pour le CAC 40 sur le cash, hein, parce que vous faisiez référence au contrat futur. Merci beaucoup Jean-Louis Cussac de nous avoir accompagnés ce matin, trader pour compte propre chez Perceval Finance Conseil. Les futurs américains sont également dans le vert, ça sera bien sûr à suivre tout à l'heure dans BFM Bourse avec Guillaume Sommerer. Il faudra bien sûr suivre avec beaucoup d'attention le titre Oracle qui était en baisse de 10% hier après la publication de ses résultats. Dans une poignée de secondes, les experts avec Raphaël Lejean. Très bonne journée.
Good Morning Market sur BFM Business.